I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est Julie Gerbet du podcast À Poil et avant d'écouter votre épisode, j'aimerais partager avec vous, mes chers auditeurs, restaurateurs, entrepreneurs, dont l'emploi du temps est millimétré et les finances mises à mal par l'inflation, ma découverte d'une solution assez idéale, je dois dire, en cas de besoin express de cash. Lancée par BPI France, la banque d'investissement française soutenue par l'État, les prêts flash permettent d'emprunter en deux temps trois mouvements, en ligne et sans paperasse superflue, jusqu'à 75 000 euros, avec un déblocage des fonds en 7 jours. Rénovation énergétique, innovation, développement marketing ou renfort de trésorerie, tous les besoins sont bons. Alors rendez-vous sur flash.bpifrance.fr.
Mes chers compatriotes, je suis heureux de vous dire ce soir...
Bonjour et bienvenue dans À Poil, le podcast qui manie les chefs. Je suis Julie Gerbet, la créatrice et hôte de ce podcast et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'interviewer Julie Côte.
Aujourd'hui, je suis représentante de Dame Jeanne en fait et c'est ce qui m'intéresse avant d'être chef. Après, le jour où je me sentirai chef, j'en serai très heureuse. Je suis extrêmement touchée qu'on me considère comme telle. En revanche, ça impacte beaucoup, ça me donne beaucoup de confiance en mon travail. Doucement, je commence à avoir un petit peu plus de confiance en moi. Le fait qu'il y ait aussi aujourd'hui des chefs qui répondent à des demandes de collaboration, c'est énorme.
Julie, que vous avez déjà entendu dans le podcast Chef, réalisé lors du festival de l'association Ernest, est la créatrice et maintenant également la chef du restaurant Dame Jeanne à Belleville. Son tout petit restaurant, ouvert il y a 6 ans, elle l'a imaginé comme sa salle à manger. Un lieu très personnel d'une rare bienveillance à tous les égards où l'on vit et l'on mange à son rythme. Sa cuisine sensible, percutante et de saison. J'adore la vision qu'elle développe avec douceur et émotion et on aurait pu continuer à étirer le temps comme elle l'expliquait mais si bien le faire. Bref, avec Julie, nous avons parlé d'accueil, de dimension raisonnable et de responsabilité. N'oubliez pas, le partenariat avec Elle à Table continue et vous pouvez retrouver chaque nouvel épisode sur le site elle.fr 48 heures avant sa sortie sur les plateformes habituelles. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour Julie.
Bonjour Julie.
C'est bête. Bon, t'as entendu rapidement dans le podcast Chef. Tu racontais pour commencer ce statut de femme chef que tu vis aujourd'hui comme un positionnement politique. Et ça n'a pas toujours été ce cas.
Beaucoup moins il y a quelques années qu'aujourd'hui, c'est certain. Mais comme je te disais, quand on s'est rencontrés sur Chef, je pense que le fait d'être à la tête de mon restaurant et à la tête de la cuisine de ce même restaurant aujourd'hui a vraiment déplacé beaucoup de choses dans ma manière de considérer mon métier et l'industrie de la restauration. Et pour pousser les choses un peu plus loin, à considérer vraiment la place de la femme dans le monde du travail et dans le monde tout court d'ailleurs, qui est vraiment pas si évidente. C'est un habit pas facile à porter.
On s'y fait petit à petit, ça prend, c'est un cheminement, comme tu dis aussi.
Oui, je pense que ça se façonne beaucoup de plein de manières et ça s'exprime aussi évidemment de plein de manières différentes. Je pense que c'est pas si évident d'en parler de manière générale, parce qu'évidemment on est toutes uniques, on vient toutes d'endroits très différents. Que ce soit de culture, de milieux sociaux, on a des environnements différents, on s'entoure de gens différents, on a une liberté aussi à la vie qui est toute différente. Donc je pense que c'est un sujet qui est vraiment délicat dans son ensemble et pas et pas que sur une comparaison homme-femme en fait. Voilà. On peut pas on part pas tous avec la même chose entre les mains. Donc je pense que ça demande aussi beaucoup de prudence. C'est un sujet qui est pas facile, je crois, si facile que ça à aborder. Et ça aussi, je m'en rends de plus en plus compte. D'ailleurs, ces derniers mois, je pense que j'ai beaucoup, beaucoup abordé le sujet avec plein de femmes et plein d'hommes différents. Mais c'est intéressant. Enfin, c'est intéressant parce que ça aiguille aussi sur ce vers quoi on a envie de se diriger, la forme, la forme, la manière et ce qu'on peut apporter aussi à tout ça. Mais des deux et d'une certaine manière des deux côtés quoi. C'est pas que un discours de la femme ou de femmes. Je pense qu'il y a un discours à l'homme qui est aussi important à avoir, qui est non négligeable en tout cas, et certainement particulièrement dans notre métier, qui est quand même essentiellement rené par des hommes, si je me trompe.
Ça change. Ouais. C'est en train de changer. Mm-mm. C'est en train de changer. Mais c'est un positionnement. Ton restaurant aussi est un positionnement quasi, je sais pas si c'est le bon terme, mais quasi radical. Donc, Dame Jeanne est née en 2015. De cette envie d'avoir ton propre lieu, un lieu tout petit, parce que c'est que, je sais même pas si c'est 18 couverts à peine.
Ouais, on a entre 18 et 20 si on joue à Tetris, mais faut pas le dire en ce moment. On peut pousser à 26. Mais oui, c'est 26. C'est précis. Mais oui, c'est une toute, toute petite maison. Ouais.
Petit lieu dans un coin un peu caché, il faut vraiment venir te chercher. C'est pour ça que je dis que c'est quasi radical pour un restaurant. C'est presque comme si on était chez toi, enfin dans ta salle à manger.
C'est tout à fait ma salle à manger. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé à écrire le projet Dame Jeanne, qu'il a fallu que je fasse une présentation, puisque évidemment il a fallu aller chercher un petit peu d'argent. J'ai présenté le lieu de cette manière-là, c'est-à-dire que oui, c'est ma salle à manger, je reçois chez moi, et c'est vraiment extrêmement important, et c'est au cœur, c'est le cœur de l'histoire en fait de Dame Jeanne.
Le recevoir, ouais. Qui a été un peu depuis un certain temps, c'est les chefs qui sont devenus patrons de restaurants et plus les restaurateurs comme ça se faisait initialement. Et ce côté, c'est peut-être un peu aussi perdu avec ça que toi, t'as voulu remettre sur le devant, en fait, la réception et la...
Oui, c'est l'accueil. C'est vraiment l'accueil. Et puis, on est des hôtes, en fait. Enfin, je veux dire, c'est important de... Je pense qu'à un moment, c'est important de le remettre au cœur du sujet. Et moi, ça fait 20 ans que je travaille dans la restauration. J'ai jamais travaillé dans des très gros lieux, j'en ai pas eu l'envie, mais en revanche, je suis beaucoup beaucoup sortie. Enfin, j'ai écrémé un certain nombre de lieux dans Paris et ailleurs en France. Mais en tout cas, à Paris, il y a quelque chose qui me manquait cruellement, et c'était vraiment d'être reçue, mais avec une intention très personnelle en fait. Voilà. Et cette intention de tout le temps qui va être passé dans cet endroit-là, vous êtes chez vous. Voilà, il y a personne qui va venir vous bousculer, il y a personne qui va vous demander de partir. On va pas vous taper sur l'épaule parce que il y a une réservation qui doit arriver derrière, etc. Et vraiment juste d'avoir le temps au temps et le temps de discuter, d'échanger, potentiellement de rencontrer les gens qui sont sur la table à côté, peu importe, mais en tout cas de se sentir chez soi et à la maison et ou alors reçu chez des bons amis, quoi. Voilà, ce qui est aussi un truc un peu sympa, mais vraiment d'avoir cette relation privilégiée de l'hôte à la personne qui va être à table.
C'est pour ça que tu mets pas de menu sur les tables.
Ouais.
Aujourd'hui c'est plus forcément toi en salle, mais tu veux qu'il y ait ce dialogue avec.
Faut qu'on se cause. Faut qu'on se cause. Non, oui, ça, je crois que c'est important, et en effet, merci de C'est pas un détail, oui, en effet, le fait qu'il n'y ait pas de menu sur les tables de Dame Jeanne ou de carte de vin. Ou non, je l'échange. Je pense que l'échange, j'ai envie qu'il existe au moment où on passe, dès le moment où on passe la porte, jusqu'au moment, enfin, jusqu'au moment où on repart du lieu, et toutes les questions sont bonnes à poser. Et puis le fait de pas avoir un morceau de papier devant soi fait aussi, je pense, ça ouvre aussi beaucoup au possible, en fait. C'est-à-dire que on va pas être crispé dans quelque chose qui est écrit. Au contraire, je pense qu'on se sentira peut-être plus libre de demander. Mais est-ce que là, voilà, mais moi j'ai ce type d'alimentation. Est-ce que ça, est-ce que c'est possible ou pas? Et le fait que rien soit figé sur un bout de papier, en fait, fait que oui, c'est possible.
Tout ouais. est possible. Enfin, bah, tout. Beaucoup. Ouais. On reste chez toi, en fait. Tu insistes aussi sur le fait que c'est un lieu où tu mets au cœur la notion de recevoir, mais ton recevoir, enfin c'est aussi ton espace.
Oui, complètement.
Et on vient chez toi, on mange à ton rythme.
Oui, vraiment à mon rythme. Et en même temps, c'est super intéressant parce que je me rends compte au bout de 6 ans, bon, il y a quand même un gros noyau d'habitués, essentiellement le midi. Et j'apprécie que les gens qui viennent déjeuner prennent sont des personnes qui ont le temps et ils savent qu'ils peuvent se poser, et parce que en effet ça va aller à mon rythme. Ils sont aussi très libres de me dire, bon Julie, écoute, là aujourd'hui on a 30 minutes, est-ce que c'est possible ou pas? Ils seront jamais vexés si je leur dis que ça n'est pas possible, parce que parfois c'est pas possible, tout simplement. Et quand c'est possible, évidemment, je fais l'effort et en sorte à ce que en 30 minutes ils puissent être nourris et puis repartir à leurs occupations. Mais oui, cette notion du temps, elle est extrêmement importante. Après, je suis quelqu'un aussi qui apprécie particulièrement étendre le temps au maximum. On en manque tout le temps. Donc on vit pas dans une ville où on nous permet de prendre le temps. Enfin, très peu finalement.
C'est tout. En même temps, on vient au restaurant pour prendre du bon temps. Donc,
exactement. Exactement.
C'est vrai que l'autoriser et que tu l'autorises, c'est important et
ouais, ouais, complètement.
Fort. Tu disais que tu avais 20 ans d'expérience, donc ce cheminement a été un peu long. Enfin, long.
Bah, ça a pris le temps, ça aussi.
Ça a pris le temps. Comment t'as commencé dans la restauration?
Alors, j'étais en fac de droit et j'avais un semestre libre, puisque ce semestre-là était validé. Donc, que faire de ce semestre-là? J'avais pas du tout envie de... À l'époque, je vivais à Poitiers. J'avais pas du tout envie de rester à Poitiers à rien faire. Donc, du coup, je me suis dit, OK, je monte à Paris. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de vivre une expérience en restauration. Donc, j'ai trouvé mon premier petit job, qui a été assez intense mais très formateur.
En salle ou en cuisine?
Non, c'était salle et bar d'abord, mais dans une vieille brasserie de l'avenue de Saint-Ouen. Donc voilà, c'était
à l'ancienne.
Complètement à l'ancienne. C'était extrêmement intéressant. Très très intéressant.
Tu te destinais à faire tu voulais faire quoi? Avocate ou
juge pour enfants. Et puis, mais j'ai toujours eu cette envie de bosser en restauration. C'était vraiment une question, la fac de droit ou la restauration. Et puis, j'ai passé 3 mois à travailler là. J'ai fini par trouver un autre petit boulot qui m'a tellement plu que, en fait, en reprenant la fac, je montais quand même les week-ends à Paris pour travailler à Paris. Donc finalement, ce que je bossais servait à me payer mon billet de train, mais j'étais très heureuse de le faire comme ça. Et puis j'ai passé mes examens et puis je suis pas allée voir mes résultats. Voilà, parce que j'ai décidé que ça s'arrêtait là, en fait, la fac de droit. Et je venais de faire connaissance avec un univers qui m'a apporté énormément, en fait, vraiment énormément. Il y a une articulation, en fait, humaine qui me questionne beaucoup et qui je pense me fait prendre beaucoup de recul sur qui je suis aussi au quotidien, en fait. Voilà, c'est beaucoup de remise en question en permanence. Et c'est super intéressant pour ça, et tellement riche, quoi. Tellement, tellement riche.
Donc, t'as commencé par le service et le bar?
Ouais. Service et bar. Ensuite, j'ai bossé longtemps pendant 5 ans dans un endroit dans lequel on était tous polyvalents, en fait, salle et cuisine. Et dans lequel je me suis retrouvée assez rapidement à être responsable du restaurant. Et j'étais assez jeune, hein, je devais avoir 23 ans, je pense.
C'était tes premiers pas en cuisine.
Ouais, premier pas en cuisine. Il y a un endroit où on m'avait catapulté en cuisine, le chef était en vacances et on m'a dit bon bah là Julie, le chef est en vacances, et du coup pendant une semaine, je me suis retrouvée à faire cuisine, salle et bar, enfin bon, c'était absurde. Ouais, ça, il faut beaucoup de souplesse dans ce boulot. Et j'ai dit d'accord, OK, bon bah allez, on y va. Bon, c'était des premières cuissons de viande. Bon, tout s'est bien passé. C'était une clientèle sympa. Le lieu était très chouette. Et donc, voilà, ça s'est fait. C'était sport, mais ça s'est quand même fait gentiment. Et puis, j'ai surtout pas du tout eu le temps de me poser la question. Donc ouais, c'était être au feu de manière totalement instantanée.
T'aimais ça? T'as tout de suite aimé ça?
Ouais, j'ai aimé ça. Ouais. Mais ça cuise. Enfin. Le fait est aussi que je viens quand même d'une famille dans laquelle on passe un temps fou et dans la cuisine et à table, donc finalement, c'est au centre de notre vie dans cette famille. Donc finalement, j'étais pas ce qui bouscule, c'est plus la relation à un public, en fait. Mais finalement, oui, j'étais déjà, je pense, relativement à l'aise
derrière.
Ouais. Et puis, bossant dans des petits lieux, je pense qu'il y a vraiment, encore une fois, cette notion du comme à la maison. Donc, c'est des dimensions qui restent raisonnables. Ouais. Ouais, complètement. Ouais. Je me vois pas du tout être dans un endroit où on envoie 150 couverts. En tout cas, en étant dans la cuisine. Je l'ai fait en étant en salle.
Oui, c'est différent.
Mais pas du tout en étant dans la cuisine. C'est un autre.
Délire.
Ça sera pas mon métier, quoi. C'est sûr. Ouais.
Et à un moment, t'es parti sur le vin aussi. T'as découvert les vins nature.
Ouais. Ouais. Et ça, le vin nature, ben, ça a d'abord été les vins biodynamiques, justement, là, l'endroit dans lequel je bossais, dont j'étais responsable, on bossait essentiellement avec des vins biodynamiques. Et puis ensuite, j'ai rencontré le père de ma fille, qui lui travaillait en cave à l'époque, et donc qui m'a embarqué dans les vins nature. Qui lui en est revenu à un moment, enfin, tous les deux, on en est revenu à un moment. Parce qu'on a, je pense, on a beaucoup creusé, et puis c'était il y a une grosse dizaine d'années. Je pense que le travail était pas du tout le même qu'il est aujourd'hui. Du coup, on est retourné à des choses un peu plus posées en biodynamie. Et puis quand j'ai ouvert Dame Jeanne, j'ai commencé avec de la biodynamie parce que ça avait un côté très rassurant pour moi. Et puis petit à petit, une fois que j'ai été vraiment en place dans le lieu, je me suis dit ah, allez quand même. C'est trop bête. Il y a quand même une sacrée cour de récré par là, donc on y retourne. Je me suis pas formée. Je suis pas du tout une technicienne du vin. En revanche, je suis quelqu'un qui aime goûter beaucoup, et je pense que je le fais, mais exactement comme avec de la même manière qu'avec la cuisine, en fait. C'est, je suis très attentive. Très attentive aux trames aromatiques, aux textures, au nez, aux ressentis. La question des accords est quelque chose qui est d'une manière hyper spontanée, en fait. Quand je goûte du vin, je sais tout de suite ce que j'aurais envie de manger avec et pourquoi, et vice versa. Quand je vois un aliment, je sais ce que j'ai envie de boire. Dessus. Là, par exemple, je vais partir cuisiner à Berlin, je leur ai demandé de m'envoyer la liste de ce qu'ils ont en cave à l'heure actuelle, justement, pour m'aider à poser sur papier mon menu, en fait. Parce que ça va, ouais. Mais parce qu'encore une fois, c'est vraiment une question d'univers plus que de, ben voilà, moi je fais ça, toi tu fais ça et voilà, je considère.
Ouais, t'as besoin de d'avoir un lien fort avec tout c'est tout l'écosystème qu'il y a autour.
Ouais. Enfin,
c'est pas juste une cuisine ou un vin, un service,
non, ouais,
c'est
ouais,
un tout.
Enfin, c'est un univers et c'est une expérience en fait.
C'était ça qui te manquait, c'est pour ça que t'as ouvert Dame Jeanne ou comment c'est arrivé?
Je pense que oui, à un moment, j'ai trouvé ça nulle part en fait. Enfin, en tout cas, dans aucun des lieux dans lesquels j'ai travaillé. Voilà, c'était soit l'un, soit l'autre. Encore une fois, ouais, puis vraiment la question de la maison. Je veux dire, dans ta maison, t'as ton univers. Et il y a une espèce de cohérence. Et puis, voilà, tout a du sens et tout a du lien. Et s'il y a quelque chose qui est posé sur la table, c'est parce que ça va être accompagné d'une autre chose qui va être posée sur la table. Et c'était, je pense, véritablement ce dont j'avais envie. C'était comme ça que j'avais envie de travailler, en fait.
Quand t'étais pas du tout en cuisine, enfin, quand t'as ouvert Dame Jeanne, tu t'es mise en salle par choix. Avant de petit à petit te diriger vers la cuisine, petite
faire une grande glissade. Voilà. Oui. Alors être en salle complètement parce que j'avais le souhait de prendre soin à accueillir les gens ici. De leur expliquer pourquoi le lieu ouvrait, comment, et de raconter l'histoire. Et je pense que quand t'es dans la cuisine, en tout cas sur une ouverture, c'est pas aussi facile que ça. Je pourrais le refaire aujourd'hui, maintenant que j'ai mes marques dans la cuisine. Voilà, en sortir, c'est pas compliqué. Accueillir les gens, c'est pas compliqué. Je réussis à
faire les deux.
Et en tout cas à coordonner tout ça. Sans que ce soit un problème dans le service, mais en tout cas oui, au moment de l'ouverture, c'était important pour moi vraiment d'être à la face, de raconter les vins aussi parce que c'était aussi une grosse partie du cœur. Enfin voilà, on vient d'en parler. Quand j'ai ouvert Dame Jeanne, je commençais vraiment à faire mes armes dans le vin et c'était important pour moi de défendre chaque bouteille qui allait être posée sur table. Et c'était important aussi, quand bien même j'étais pas dans la cuisine, il y avait quand même une grosse écriture du projet cuisine, avec une ligne directrice. Et quand bien même j'étais pas exécutante, je suis quand même la personne qui a écrit l'histoire. Donc il y avait une règle, une contrainte. Qui était non négligeable hein, et dont il a fallu discuter avec les chefs qui ont travaillé là avant que je prenne la cuisine, du pourquoi et du comment, qui a un peu fait peur au départ et qui finalement je pense a apporté beaucoup à chacun techniquement. D'être aussi en mesure de défendre la cuisine de quelqu'un que j'ai choisi moi, puisque auparavant, j'ai travaillé dans des établissements, mais qui n'étaient pas les miens, et j'ai pas. Alors si, j'ai déjà recruté pour la cuisine, mais c'est vraiment venu sur le tard en fait. Et
là, c'était choisir, assumer assumer la cuisine de quelqu'un et le porter.
Ouais, complètement. Ouais, le porter et puis d'ouvrir une voie aussi, parce que c'est aussi ce qui est intéressant. Je veux dire, quand on ouvre un lieu et qu'il y a des gens qui viennent travailler dedans, on sait que qu'ils sont pas là. Ils font pas partie des murs, quoi. Donc ils sont là et puis ils vivent leur expérience. Au-delà de celle qui est vécue ensemble, et puis à un moment, ils décident de partir, et je trouve que ça fait aussi partie du job d'apporter quelque chose à ces personnes-là qui vont rester le temps qu'ils vont rester, mais aussi qui vont donner beaucoup de leur énergie, de leur savoir-faire, etc. Et je pense qu'il y a aussi quelque chose une attention toute particulière à apporter là. C'est-à-dire, il faut être le représentant de ce travail-là.
Et c'est quand Jeff est parti, là, tu t'es dit, ça y est, je peux me mettre en cuisine, je me sens de le faire.
Alors,
ou...
pas tout de suite. pas tout de suite parce que passer après Jeff, c'est pas simple. C'est pas simple parce qu'il a, il y a une énorme identité dans l'assiette et puis il y a une énorme identité dans le lieu. Hein. Enfin, je veux dire, je pense qu'il y a nombre de personnes qui ont longtemps pensé que Dame Jeanne c'était chez Jeff. Ce qui, moi, m'a pas tant bousculé que ça parce que j'ai pas tant d'ego et que l'idée c'est que le lieu existe et sa propre énergie aussi. Mais oui, passer après Jeff, c'est, ouais, j'en étais pas là. J'ai travaillé brièvement avec deux autres chefs après ça. Et puis ça s'est passé, c'était pas simple. Voilà, il y a pas eu la même fluidité, mais très certainement aussi parce que moi j'avais progressé.
Plus d'idées, ouais. Peut-être.
Ouais, et puis je pense que j'ai aussi encore un peu plus déplacé la considération que j'avais pour le lieu en fait. Et ça a été, voilà, c'était un peu, il y a eu un peu de rugosité et j'en veux pas ici en fait. J'en veux pas du tout. Je pense que c'est non, c'est un espace dans lequel on doit se sentir vraiment tranquille dans le travail, quoi. C'est trop important. On y passe trop de temps. On peut pas dépenser de l'énergie à savoir sur quel pied on va se lever le matin, si en disant ci ou en disant ça, ça va aller ou pas. C'est pas possible. Mais je pense que c'est vraiment définitivement ça qui m'a poussée dans la cuisine. Au-delà de l'expérience professionnelle que ça m'apporte, qui est infiniment riche.
Que t'as découvert après, finalement.
Ouais. Mais ça a d'abord été, moi, me sentir bien et en sécurité dans le lieu, accueillir des gens qui allaient y travailler en s'y sentant bien et en sécurité également, et ensuite profiter de cette expérience cuisine qui est
pour prendre ta place de chef et petit à petit
ouais. et sans urgence en plus. Enfin,
est-ce qu'elle t'a mis du temps aussi à te sentir légitime?
J'y suis pas encore. C'est pas une question évidente. Quand c'est pas la place que t'as choisi dès le départ, puis quand t'es autodidacte, parce que toutes ces questions-là finalement sont aussi très personnelles, hein. C'est la manière dont tu te considères toi en premier dans tout ça, et je
tu te considères quoi?
Je sais, en fait, le fait est que je sais ce que je sais faire, je sais ce que je ne sais pas faire.
Et t'as pas l'impression de pouvoir t'appeler
mais
chef.
Par ailleurs, j'ai
si, quand même.
Doucement. En chuchotant. Et puis, je sais pas si c'est ma question aujourd'hui, en fait. Je trouve que je suis plus, encore une fois, il s'agit du lieu, il s'agit pas de moi. Aujourd'hui, je suis représentante de Dame Jeanne, en fait. Et c'est ce qui m'intéresse. Avant d'être chef. Après, le jour où je me sentirai chef, j'en serai très heureuse. Je suis extrêmement touchée qu'on me considère comme telle. En revanche, ça impacte beaucoup, ça me donne beaucoup de confiance en mon travail. Et doucement, je commence à avoir un petit peu plus de confiance en moi. Le fait qu'il y ait aussi aujourd'hui des chefs qui répondent à des demandes de collaboration, c'est énorme. Enfin, voilà.
Ouais, ça me... t'invite à Berlin, on t'a invité
à Lisbonne
l'année dernière.
J'ai cuisiné pour des vignerons en février dernier dans la Loire. Et puis quand moi j'invite à venir cuisiner chez Dame Jeanne aussi, c'est voilà, les réponses sont positives et enthousiastes. Et ça c'est super important. Ça a pas de prix, quoi. Je pense que ça reflète. Pour moi, c'est un des plus gros reflets. Voilà. Après ma clientèle d'habitués qui est hyper contente et qui à chaque fois me dit voilà, on s'est régalé et c'était super. Et ça c'est le Graal. Non mais c'est vrai. C'est voilà, il y a pas de Parce que je pense qu'avoir un retour de ses pairs, c'est extrêmement important. Mais avoir le retour des personnes qui passent ta porte depuis 6 ans, et qui manifestement n'ont pas l'intention d'arrêter de la passer, ça c'est quand même.
T'as jamais ressenti le besoin d'aller te frotter à des pairs, mais dans leur cuisine, à aller apprendre? Tu disais dans le podcast de Chef que t'avais refusé d'aller te former dans des brigades étoilées parce que tu savais que c'était pas fait pour toi et que tu le supporterais pas, ce style de brigade. Mais est-ce qu'il y a un moment où t'as eu envie ou...
Ben, je me suis posé la question il y a un an et demi, justement, parce que ça faisait un an que j'étais dans la cuisine du resto et que je sentais que j'avais des limites, vraiment.
Technique?
Des limites techniques. Voilà. Au-delà, j'appellerais pas ça des lacunes, en fait. C'est juste à un moment où tu sens que voilà, t'arrives plus à avancer aussi vite que tu le voudrais. Et donc.
Mais c'est quoi? C'est sur des techniques de cuisson, ou de rapidité?
Les deux. Ouais, les deux. Enfin, l'ensemble de la technique, finalement. Parce que quand tu passes un an dans ta cuisine à apprendre tout seul, parce que c'est ce qui s'est passé, et où malheureusement tu n'as pas de temps de sortir de ta cuisine. Donc comment tu fais? Donc du coup, je me suis posé la question de mais est-ce que je pourrais trouver, comment je pourrais organiser l'espace pour apprendre, et puis pour apprendre de gens qui m'intéressent. Jusqu'à aujourd'hui, sortir des lieux pour une période un peu longue, c'est pas tout à fait envisageable. En revanche, comme chaque problème peut pousser à la créativité, il y a eu l'ouverture des portes du restaurant et où j'ai commencé à accueillir des gens dans la cuisine avec moi et où, dont tu as fait partie d'ailleurs, et où avec chacune de ces personnes, j'ai appris énormément en fait. Et ça a débloqué tellement de choses. Mais de la même manière qu'en allant à Lisbonne, j'ai été au contact d'autres personnes de la cuisine et qui sont des personnes qui bossent super bien, qui sourcent aussi extrêmement bien, etc. Et ça m'a énormément apporté techniquement. Après, je sais pas, je pense que là, je suis pas dans un moment où j'aurai l'énergie à nouveau, tu vois, de me dire, bon, là, ok, c'est peut-être le moment pour aller dans tel type d'endroit et apprendre. C'est pas un problème d'envie, et encore une fois, c'est plus la question d'énergie, de pouvoir et de.
La période en plus est compliquée.
Ouais, la période est compliquée, stressante, et c'est.
Et là, t'as d'autres choses en tête
aujourd'hui,
aussi.
Ouais. Aujourd'hui, je suis plus préoccupée par réussir à trouver comment on recrée un espace dans lequel d'abord on peut pratiquer notre métier, ce qui est quand même pas simple. Et dans lequel on prend plaisir à le pratiquer et dans lequel on peut à nouveau accueillir des gens en leur proposant plus qu'une formule du midi, en fait.
Ouais,
et
puis pas être chamboulé. Voilà.
Qui quand bien même m'intéresse beaucoup, mais ce n'est pas que le cœur de mon activité, en fait. Donc du coup, voilà, je suis plus prise maintenant par ça que par à nouveau
Oui, là, t'es moins dans la réflexion culinaire de la technique, ouais, ou d'autres choses. T'es plus dans la partie restauratrice, organisation,
complètement
de fait, par le contexte actuel,
et plus par la question, ouais, organique, ouais, finalement, du métier,
qui est général.
Ah oui, totalement.
Confrères, consoeurs.
Ouais, et puis trouver des espaces où vraiment on va avoir le sourire, quoi, parce que même si c'est que quelques heures, mais c'est trop important. Enfin là, c'est moralement, c'est quand même super intense, quoi.
Ouais, et puis c'est la remise en question tous les 3 jours.
Oui, et puis du coup, ça remet aussi vachement en question ta formule de départ. Est-ce que dès le départ, j'ai fait les bons choix? Et c'est ça qui est terrifiant, c'est que c'est une remise en question totale et absolue fondée sur quoi rien du tout finalement. On n'est pas responsable en fait de ce qui est en train de se passer, mais on nous le fait porter beaucoup et de plein de manières différentes. Donc en réduisant nos horaires, ok, mais aussi en nous faisant penser qu'on est des lieux de transmission virale. C'est quand même parce que ça c'est pareil. Je veux dire, faut pouvoir émotionnellement et nerveusement le supporter. Enfin moi j'ai.
Bah on te demande de prendre les noms s'il y a un cas d'appeler tout le monde. Enfin c'est quand même voilà. Effectivement une lourde.
C'est une responsabilité. C'est une responsabilité qui dépasse notre domaine d'application quoi. Je tiens et où on essaie, je pense, pour la majorité d'entre nous, de se prêter au jeu et de le faire vraiment avec beaucoup de bonne volonté, parce qu'on tient à notre industrie beaucoup. C'est pas un gagne. Enfin, en tout cas, moi, je considère pas ça comme un gagne-pain. C'est ma vie, quoi. c'est ma vie à 100%, quoi. Et ça, voilà. Et ça évidemment implique aussi, je veux dire. Ouais, encore une fois, c'est ma maison, quoi, et ma fille aussi vit
beaucoup
aussi
ici,
ça. Ouais, elle vit beaucoup ici, puis elle vit beaucoup mon métier, et mon compagnon de la même manière.
Ta fille aime ton métier, ou pas?
Ouais. Ouais, beaucoup. Ah, ma fille est extrêmement fière. C'est tellement adorable. Je pense que c'est son regard qui m'émeut le plus.
Non, c'est cool parce que c'est vrai que souvent quand ils demandent à des enfants de restaurateurs, ils disaient jamais je ferais ça enfant parce qu'ils ont vu leurs parents bosser beaucoup, ils les voyaient pas, ils avaient un regard très anti, tu vois, à se placer ce métier-là, c'est chouette de voir que au final elle te voit épanouie et qu'elle l'aime et qu'elle est fière.
Complètement. Et elle est hyper fière là. Je sais plus. Oui, on était. Je faisais un pop-up à Poitiers. Puis là, pour le coup, on a vraiment fait un pop-up en famille. Moi, j'étais au fourneau. Dionne a mixé et Maë nous a filé un super coup de main au service. Elle était tellement en joie et elle m'a dit « Je suis trop fière que tu sois ma maman ». Je me suis dit « Mais pourquoi ?» Elle me dit « Mais parce que tu te rends compte, ce que tu fais, c'est trop beau et c'est trop bon. Mais tu te rends compte de la chance que j'ai d'avoir une maman qui fait des trucs comme ça ?» Moi, ça m'a évidemment beaucoup touchée. Et puis Maë fait partie de l'aventure d'Âme Jeanne depuis le tout début. Et on en parle beaucoup et elle sait que quand je vais au travail, c'est pas du temps que je prends sur notre temps à nous, c'est juste que c'est articulé comme ça dans notre vie et que du temps, ben, on en récupère à d'autres moments et voilà. Et on, il y a une discussion, elle adore le lieu, elle adore y passer du temps. Elle adore y découvrir des trucs. Là, c'est pareil. Cet été, elle est venue plusieurs midis avec moi. Elle m'a aidée sur le service. Elle était super contente. Et puis voilà. Puis les gens qui sont des habitués ici, eh ben, ils la voient grandir. Et il y en a plein qui m'ont dit, oh là là, mais c'est incroyable. Là, au niveau de la technique du porté d'assiette, on a upgradé à fond. Et c'est chouette, je veux dire, il y a pas de. Alors évidemment que oui, ça demande beaucoup d'organisation, d'être parent et restaurateur, mais ça peut s'articuler. Enfin, jamais je dirais le fais pas en fait.
Et
jamais.
Le fait aussi d'avoir un petit lieu d'être maîtresse chez toi te permet aussi, t'articule finalement l'ouverture du restaurant et l'organisation du restaurant autour de ta vie de famille et de ton organisation familiale.
Oui, totalement. L'emploi du temps d'Âme Jeanne est beaucoup calé sur l'emploi du temps maison-enfant.
Ça, c'est un luxe aussi aujourd'hui de pouvoir le faire, l'autoriser.
Oui. Mais ça, je pense que le fait aussi, avant d'ouvrir Dame Jeanne, d'avoir eu quasiment 15 ans d'expérience dans le métier, d'avoir rencontré beaucoup de gens, d'avoir été au contact de plein de familles aussi, de restaurateurs, etc. Je veux dire, ça faisait partie des points non négociables, en fait. au moment de l'ouverture. C'est pas, je pense que encore une fois, ça demande un peu d'organisation, mais c'est en aucun cas incompatible. Et je pense aussi que ça peut être totalement épanouissant pour chacun en fait. Pour chacun, moi, Maë me donne une énergie folle et je sais aussi qu'elle tire de l'énergie de cet endroit à plein de moments.
Et te voir épanouie aussi.
Ah oui, totalement. Elle est tellement enthousiaste quand je lui dis ah ben là, je vais aller cuisiner là ou ouais, je vais recevoir telle personne pour cuisiner ou et ça la réjouit et elle sait que eh ben il y a plein de fois où elle pourra faire partie de l'aventure, d'autres fois c'est pas possible, c'est une frustration mais c'est comme ça et après on a nos moments qui ne sont qu'à nous et où il y a pas de restaurant et où il y a pas d'école et on peut juste se contenter de profiter et de faire nos choses. Je sais pas, à un moment, mais de la même manière, enfin, c'est comme si on disait, ah ben là, t'ouvres un restaurant, donc il y a tout un tas de choses que tu vas plus pouvoir faire dans ta vie, et de la même manière qu'on te dit, ah ben là, tu vas avoir un enfant, donc il y a tout un tas de choses que tu vas plus pouvoir faire dans ta vie. Mais depuis quand, en fait? Enfin, je crois pas ça, évidemment que, enfin, c'est pas qu'il y a des choses que tu vas plus pouvoir faire, c'est juste qu'il y a des choix que tu fais qui vont être un peu différents. Possiblement, mais au départ, ce sont des choix. C'est-à-dire que de la même manière que d'ouvrir un restaurant, personne te force à ouvrir un restaurant. De la même manière que faire un enfant, personne te force à faire un enfant. Donc la question, c'est comment avec ces choix-là, j'adapte un ensemble de vie en fait. C'est pas, moi je sais pas. Quand j'ai su que j'attendais Maë, je me suis dit oh là là, mais c'est merveilleux, c'est quel plus dans ma vie quoi. Je me suis pas dit oh là là, bah, je vais arrêter de sortir, je vais arrêter de voir les gens, je vais être complètement cloîtrée chez moi, je vais plus travailler. Au contraire, je pense que j'ai fait depuis qu'elle est née, je pense que ces 11 dernières années, j'ai fait tellement plus de choses que jamais auparavant dans ma vie, quoi. Enfin, c'est un gros moteur, en fait. C'est un gros, gros moteur.
C'est cool. Bon, on va passer à l'aller-retour. Faire une petite pause. Ton âge?
40.
Ton plat signature?
Joue de bœuf au cacao. Cacao, vin rouge.
Ton plat préféré?
L'œuf mollet.
Le chef que tu admires le plus, le ou la chef?
Ah, ça, c'est une question tellement compliquée. Tellement compliquée.
Les chefs.
Et non, mais il y en a, vraiment, il y en a tellement, je sais pas, je pense qu'aujourd'hui, le chef à la table duquel j'ai préféré être et à laquelle j'ai préféré retourner, c'est Antonio Prado à Lisbonne, définitivement. Meilleure table.
Ton ingrédient préféré?
Mon ingrédient préféré, est-ce qu'on peut considérer le bouillon comme étant un ingrédient?
Oui.
Si on passe sa vie à faire des bouillons.
Ton ingrédient détesté?
Mon ingrédient détesté, mon ingrédient détesté, ça serait du céleri branche. C'est le seul truc, je crois, que j'arrive pas à absorber.
Ton ustensile fétiche?
Mon ustensile, le chalumeau.
Ton dernier meilleur repas?
Mon dernier meilleur repas. Waouh, ils sont tous bien les repas, non?
Ouais. Le dernier qui t'a marqué?
Le dernier qui m'est marqué. Je sais pas, on en fait tellement des repas. On passe notre vie à table. J'ai beaucoup de mal à comparer tout. Le repas, c'est fait tellement de...
Oui, de moments et
ouais,
de... Enfin,
ouais,
il y a beaucoup de choses. Mais un truc comme ça, pas un plat, mais un truc qui t'a particulièrement marqué ces derniers temps.
Ces derniers temps aussi, tu me facilites pas la tâche, hein, parce que l'accès oui. au restaurant, Non, je dirais que le dernier repas qui m'a véritablement marqué, c'était chez mon papa et ma maman. Et comme il y a eu plein d'anniversaires qui ont été un peu squeezés pendant le confinement, on s'est retrouvés à un moment et on a fêté tous les anniversaires en même temps. Donc ça a été l'anniversaire de mon père, le mien, celui de ma fille, leur anniversaire d'amoureux. Et on a fait un festin qui a duré 48 heures. Ouais.
Ça allait ça pour rattraper.
Ouais, au moins. Voilà, ça c'est mon meilleur moment à table depuis. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vécu un aussi bon d'ailleurs, j'avoue.
Le meilleur compliment qu'on t'ait fait.
Le meilleur compliment qu'on m'ait fait. Des fois, je reçois des personnes en immersion dans la cuisine ici, et il y a un monsieur. Qui est venu dîner une fois avec des amis, puis il est revenu dîner avec sa famille et ses filles lui ont offert une immersion à la cuisine. Et j'étais très surprise parce que c'est la première fois qu'un client en fait du restaurant venait en immersion. C'est toujours des gens qui ne sont jamais venus auparavant, bref, qui découvrent. Et je lui ai demandé pourquoi il était là et enfin pourquoi ce qu'il avait poussé à choisir Dame Jeanne pour l'immersion. Et il me disait que il avait véritablement envie de comprendre. Comment ce qu'il avait mangé en fait et ce qu'il avait tant touché était fabriqué et s'il y avait une cohérence et un lien en fait. Et on a été ensemble dans la cuisine de 9h du matin jusqu'à 14h30. Il s'est mis à table après le service finalement, alors que normalement il est censé manger pendant le service. Et il m'a dit j'ai compris. Et oui, je pense que c'est le plus joli compliment. Voilà. Je dis, ça y est, je sais ce qui se passe dans l'assiette. Et c'est, ouais, ça, c'est tellement chouette de dire, voilà.
Quelqu'un qui a compris ce que tu voulais faire.
Ouais.
Moi, la pire critique.
La pire critique, en fait, je crois qu'il n'y a pas de, pire critique. Tout est entendable. Je pense que la chose qui mérite, justement, c'est la personne qui n'est pas capable de donner la pire critique. Voilà. Ça, c'est le pire. C'est le pire qui puisse arriver et qui va, par défaut, aller mettre cette critique-là sur un réseau social ou quoi. Et je trouve ça tellement dommage et pas constructif et très... Et ça heurte, en fait. Ça heurte. Je pense que c'est important de dire justement quand on n'est pas content et d'expliquer pourquoi, parce que tout est entendable et tout est recevable. Et après, ne tient qu'à nous de travailler dessus ou pas. Mais ouais, la pire critique, c'est de pas être foutu de la faire la critique, quoi.
Beaucoup de ton cœur dans ce restaurant, dans la notion de bien boire et de bien manger, et ça passe aussi par le choix des produits, des produits de saison, des produits en circuit court quand c'est possible, ou en tout cas avec une forte idéologie artisanale, c'est la base pour toi.
Ouais, c'est extrêmement important. J'aimerais avoir plus le temps de sourcer, parce que ça c'est un petit peu la limite en fait quand t'es à la tête du restaurant et de la cuisine et voilà, donc je travaille énormément seule, hein, quand bien même il y a une équipe, je passe quand même beaucoup de temps seul aussi et c'est du temps que je peux pas passer à faire encore autre chose. Donc j'aimerais pouvoir sourcer plus. Mais oui, très clairement, travailler avec des grosses machines distributrices, ça c'est un impossible, quoi. C'est un impossible. Le supermarché, ça sert essentiellement à acheter ses produits ménagers et encore. On va dire du vinaigre blanc, quoi. Non, j'exagère, mais oui, je pense que c'est important de porter une attention toute particulière à ça, mais parce que sinon c'est pareil, tu perds une partie de l'identité de ton lieu.
C'est des valeurs aussi que tu véhicules à travers ce choix-là.
Oui, et puis c'est de là d'où je viens aussi. Hein. Enfin, moi, je suis née à la ferme, donc alors. Alors même si ça fait toujours sourire mes parents quand j'en parle, parce que ce sont que les 5 premières années de ma vie, mais les 5 premières années de la vie restent assez déterminantes, mine de rien. Et oui, puis j'ai grandi dans une famille où on va au marché, où on va chez les producteurs, où on a des copains qui sont éleveurs, ou maraîchers. Enfin, qui font du miel, qui font tout un tas de choses différentes. Et c'est pas, on n'a pas une culture picarde. Et où on fabrique les choses et où a priori on ne mange pas ce qu'on ne sait pas fabriquer. Il y a aussi ça qui je trouve est assez important. Et j'essaie et je me rends compte que j'essaie d'être aussi très proche de ça dans
ta cuisine,
dans ma cuisine. Ouais, ce que je fabrique pas,
tu le fais pas.
Ça arrive pas dans l'assiette, quoi. Ou à moins que, enfin, en tout cas, c'est extrêmement rare, ou alors ce sera sur un produit vraiment déterminé, mais j'évite. Ouais.
Tu cuisines beaucoup à l'instinct?
Énormément. Ouais.
T'as pas peur de la page blanche?
Non. Non, j'ai la tête trop pleine. Parfois, après, évidemment, il y a des moments où on va être un peu plus fatigué, où la charge mentale peut-être un peu plus importante. Mais je veux dire, au bout d'un certain temps, on a aussi le droit parfois de se reposer un peu sur ses acquis et de juste flotter dessus pendant un petit moment. C'est aussi pour ça, tu vois, que là, par exemple, je te disais tout à l'heure que non, là, je suis pas dans un moment où je me projette aller faire un stage dans une cuisine, parce que techniquement, là, ouais, en 2 ans et demi, j'ai quand même accumulé pas mal de choses et qui peuvent me permettre de me sentir un peu à l'aise pendant quelques temps, jusqu'au moment où je vais me réennuyer à nouveau, mais il sera déjà passé plein d'autres choses d'ici là. Mais non, j'ai pas peur de la page blanche. Je crois pas. Enfin, quand t'es en train de goûter plein de trucs différents tout le temps en même temps, ou juste des couleurs, ou juste des formes, des textures. Il y a des possibles à l'infini, quoi. À l'infini.
Tu m'as dit que tu disais que t'avais aimé défendre la cuisine de quelqu'un d'autre. Toi, t'as besoin d'être défendu aussi par les personnes qui sont en salle. Tu te défends toute seule.
J'ai pas besoin qu'ils me défendent, j'ai besoin qu'ils soient sûrs de l'assiette qu'ils posent sur la table, en fait. C'est plus
que la cuisine plus peut-être, ou
c'est j'ai besoin
qu'ils soient convaincus.
Ouais, qu'ils soient convaincus. J'ai pas besoin qu'ils vendent ma cuisine. mais dans le sens où, enfin, si, évidemment, je suis contente qu'ils l'accompagnent, mais oui, c'est vraiment la question de je veux qu'ils soient sûrs de ce qu'ils posent et qu'ils soient convaincus qu'ils aiment
le lieu.
Exactement.
Enfin, qu'ils aiment le lieu.
Ouais.
Tu disais que tu choisissais pas, enfin, les gens, ils viennent pas ici par hasard. Aujourd'hui, ils viennent chercher un état d'esprit et il faut aussi qu'ils soient, ils viennent le chercher et toi, tu les, enfin bon, il faut que ça matche, quoi.
Ouais, complètement. Oui, et puis après on se rencontre et puis on s'apporte les uns les autres, hein, ça c'est sûr. Mais je leur fais aussi beaucoup goûter, parfois quand on est vraiment juste en milieu de production, et puis ils me disent, et ils sont totalement libres de me dire, et puis des fois je fais juste goûter, et bah tu vois par exemple Ed dont je te parlais tout à l'heure, quand il est passé me voir pour me dire bon alors est-ce que ça tient toujours pour que je vienne passer un peu de temps avec toi dans la cuisine, etc., je lui ai dit oui, et j'étais en train de faire quelque chose et je lui ai fait goûter, et ma première question a été bon alors pour toi qu'est-ce qui manque, voilà. Et c'était hyper intéressant, et on a pris 15 minutes là-dessus, et j'ai écouté ses réponses, et au final, il m'a dit que selon lui, il manquait rien. Je lui dis, mais c'est aussi OK si tu penses qu'il manque rien. Il n'y a pas de piège, en fait. C'est juste intéressant, toi, quand ça arrive à toi, parce que, en effet, on va partager la cuisine à des moments et j'ai envie qu'on puisse être en discussion, en fait. Mm-hmm. Et de la même manière que, je vois, enfin, par exemple, aujourd'hui, là, d'avoir Sarah dans la salle, ça me fait grand bien parce qu'elle est totalement convaincue par ce qu'il y a dans l'assiette, puis par ma démarche et par mon positionnement aussi dans le lieu. Et elle me le rappelle d'ailleurs, et ça c'est super.
C'est défendu dans ce sens-là, en tout cas.
Oui, complètement. Ouais. Ouais.
T'as mis du temps à construire ton identité culinaire, ça a été compliqué, ça a été facile.
Je pense que fait, ce qui a été, je pense que c'est plus, c'est pas tant l'identité culinaire. Ce sera plus, ben, pour en revenir à la question que tu m'as posée un peu plus tôt, plus en revenir à l'identité chef, en fait. C'est-à-dire qu'il y a une vraie différence entre quand bien même on peut considérer potentiellement ma cuisine une cuisine ménagère, hein, qui fait aussi partie du. Non, mais parce que je l'ai lu, donc donc pourquoi pas, et c'est ok. Non, c'est-à-dire que il y a au bout d'un moment, il y a quand même une différence entre même si je veux rester sur une cuisine qui est accessible, c'est très important pour moi. Je veux pas du tout qu'il y ait d'intellectualisation de l'assiette ici, en tout cas. Ailleurs, pourquoi pas, mais en tout cas ici, c'est pas du tout mon propos. Mais quand bien même, il y a encore une différence entre ce que tu cuisines dans ton vrai chez toi et ce que tu
bien
cuisines,
sûr.
Voilà. Et ça, oui, ça a pris un petit peu de temps, mais ça a pris un petit peu de temps parce que pas parce que je savais pas ce que je voulais produire, mais parce que je savais pas comment, fallait que je l'apprenne en fait, quoi. Donc ça a pris une bonne année. Ça a pris une bonne année et à base de, je pense, 60 grosses heures par semaine minimum dans la cuisine.
Ouais. Et comme tu dis, effectivement, il y a une grosse différence entre faire à manger pour ses amis à la maison, et je l'ai vu quand tu m'avais invité à venir cuisiner avec toi, où pour la première fois, je me suis dit « Ah, mais enfin, je vais pas... Chez moi, je cuisine beaucoup des recettes que je prends dans des livres. » Et là, c'était pas le propos. Enfin, c'était donc tu vois, qu'est-ce que tu vas faire? Aller chercher. C'était hyper fluide, je trouve, la façon dont ça avait fonctionné, les idées et l'échange. Mais c'est vrai que c'est une question que je m'étais pas forcément posée avant et que tu te poses effectivement quand tu t'es confronté à ça. Et il y a beaucoup de chefs qui disent que aussi souvent au début ils reproduisent les premières cartes, un peu reproduction de ce qu'ils ont fait avec leur précédent chef dans les précédents endroits, et puis petit à petit ça s'affine, mais que ça prend aussi vachement de temps.
Et puis ça prend du temps parce que c'est pas non plus que la technique, c'est aussi le dressage, c'est tellement de petites choses. Mmh. C'est le choix du produit, c'est l'organisation.
C'est une grosse partie
du travail. Complètement. Mais après, mais c'est marrant parce que c'est des questions que je me pose beaucoup moins là, 2 ans et demi après. Et 2 ans et demi, c'est peu, hein. Enfin, je veux dire, en même temps, voilà, j'ai pas 10 ans de cuisine dans les pattes. Bon, il y a quand même eu ces 3 mois d'arrêt de fermeture de restaurant qui, en l'occurrence, moi, m'ont permis de travailler énormément. J'ai cuisiné entre 5 et 6 heures par jour tous les jours.
À la maison.
Ah oui. Ça m'a laissé le temps de...
C'était un apprentissage aussi, enfin, pour faire des, pour progresser, pour tester des choses.
Ça m'a laissé le temps de tester tout un tas de choses que j'avais pas le temps d'essayer en étant en activité. Et là, je me rends compte qu'au sortir de ces 3 mois, ma cuisine n'est plus du tout la même. Ah ouais, non, mais il y a un changement. On est sur le même chemin. Ça c'est sûr, mais oui, je pense que techniquement il y a un gap énorme qui a été passé, et ça et je suis très contente d'avoir eu l'occasion, même si c'était 3 mois pas évident pour tout un tas de choses. Je suis très heureuse d'avoir eu l'occasion de, c'est comme si j'avais fait 3 mois de résidence, quoi, tu vois, c'est, et où vraiment j'ai énormément cuisiné, et c'est marrant, on en parlait avec Dion l'autre jour, ou même quand lui raconte son confinement avec moi, finalement, quand il raconte son confinement avec un chef, il dit, bah ouais, mais nous on a mangé restaurant tous les jours, quoi. Alors certes on faisait un seul repas par jour, mais c'était un repas de restaurant, entrée, plat, dessert, qui était avec des heures de travail en amont, et ouais, je me suis régalée à faire ça, quoi. C'était top. Voilà, ça a été se lancer sur des pet nat, ça a été s'essayer à la kombucha. Bon, je je dois me remettre sur le levain, c'est pas encore ma zone de confort.
Mais tu m'avais dit qu'il n'avait pas...
Non, il a pas été très vivace. Moi, bon, je pense que j'avais pas les farines adéquates. Et puis la température aussi. Je pense que c'était...
T'étais en Hollande?
Ouais.
Froid là-bas, non?
Il fait plus froid. Il fait pas froid, mais il fait un peu froid. Mais non, c'était un super espace-temps à avoir. Et oui, ça, je pense qu'en 3 mois, j'ai pris entre 6 et 9 mois
de
progression. Ouais, ouais, clairement. Et même mes clients habitués me l'ont dit. Enfin, je veux dire, ces derniers mois, il y a énormément de gens qui m'en ont parlé. Que ce soit les habitués, les copains, mes parents, Donc c'est chouette.
Il y a un truc qui m'a marqué quand je suis venue, quand tu m'avais invité en cuisine, c'est en fait de voir aussi ce qui est important en fait. Pour moi là dans l'expérience et c'était finalement le truc le plus important c'était que moi-même je sois fière de l'assiette tu vois du goût que ça avait et j'étais très fière d'ailleurs
c'était très bon
mais qu'est-ce qui te porte toi?
Ah ouais, le goût
enfin tu vois c'est quoi le truc le plus important quand tu cuisines?
Alors, je pense que le plus important pour moi, c'est à quel point la personne va se sentir confortable quand elle va porter la fourchette à sa bouche, en fait. Quoi, il y a vraiment. C'est un ensemble. Mais c'est pour ça aussi que je te disais, voilà, j'ai pas envie de faire une cuisine qui est intellectualisée. Je veux faire une cuisine dans laquelle on se sente confortable, bienvenue. Et avec des surprises, bien sûr, l'idée n'est pas de faire quelque chose de complètement... J'adore les coquillettes au jambon, vraiment, j'adore ça. Mais bon, c'est... Voilà, on essaie d'aller un petit peu plus loin que ça. Et évidemment, voilà, avec des petites surprises, avec des choses qu'on ne connaît pas, qu'on n'est pas habitué à manger, mais où dans l'ensemble, on a quand même un espace où on se sent confort, pas bousculé. Et ça, je trouve que c'est... Oui, c'est ce qu'il y a de plus important. Mais d'ailleurs, je pense que c'est exactement le menu qu'on a fabriqué sur ce 4 mains ensemble. Et d'ailleurs, je pense que c'est dans l'ensemble la ligne qui a été suivie avec toutes les femmes qui sont passées sur cette année-là, parce qu'il y a eu quand même 13 4 mains.
Oui. Ouais, des DJ, artistes, tatoueuses, pas des chefs, quasiment pas.
Presque pas. Presque pas de chef. Mais c'était bien, c'était...
Ça t'a nourri.
Ça m'a apporté une énergie incroyable. Et puis j'ai appris énormément à votre contact aussi, parce que du coup...
C'est notre vision aussi, d'être confronté.
Et puis le fait de cuisiner vos madeleines, c'était aussi une manière d'avoir accès à...
Les gougères, tu veux dire.
Vos gougères.
Mes madeleines gougères. Mes gougères de Proust.
C'était vraiment une manière de aussi de travailler des choses que j'aurais pas spontanément travaillé. Et ça m'a permis de progresser beaucoup, mais c'est ce dont je te parlais tout à l'heure, c'était aussi ça, ouvrir la porte de la cuisine et recevoir des personnes dans la cuisine. Bon, en l'occurrence, que des femmes, ça c'est clair, et c'était quelque chose de très important aussi pour moi. Mais non, techniquement, ça a été pour moi le vrai début du step progression, quoi. Et je suis très heureuse que ça ait existé. Plus triste que là maintenant, parce que j'ai voulu continuer. Et en fait, avec toutes les grèves, puis le virus, mais c'était pour moi impossible de remettre ça en place. En tout cas, parce que ça a été vécu tellement sereinement, en fait. Et quand bien même, c'était 2 rendez-vous par mois, donc ça a été relativement intense, mais dans une énergie très très douce, et que là remettre ça en place et en fait finalement en essayant de faire une espèce de forcing, ça valait pas le coup en fait. J'ai pas du tout envie. Ça fait pas partie du projet du tout.
Mais il y a des petites surprises qui arrivent.
Ouais.
Et un truc qui m'épate ici, c'est le menu à 28 euros le soir. t'arrives à garder le prix, ce prix-là, et c'est quoi l'économie en fait d'un petit restaurant comme le tien fonctionne avec un prix quand même hyper abordable.
Ben l'économie, elle tient essentiellement du fait que, ben, comme je te disais, je travaille beaucoup toute seule. Donc c'est des midis où je fais cuisiner sale seule. Elle tient aussi du fait que, donc du coup voilà, il y a quelqu'un dans la salle le soir, mais déjà ça réduit énormément les charges, hein, voilà. Donc c'est beaucoup de travail, mais une économie qui est peut-être aussi un petit peu plus calme finalement. Et puis il y a aussi le fait que j'ai quand même décidé de m'installer rue Rampono il y a 6 ans.
Comme je disais, faut venir voilà. Te chercher.
Et... c'est ça. mais non, quand je me suis installée ici, enfin j'ai choisi de m'installer dans un quartier et j'ai décidé que le prix de mon menu devait aussi correspondre au quartier dans lequel je m'installais. Et voilà, et le soir c'est 28 €, mais le midi c'est 17, et je suis contente de me dire que les gens qui n'ont pas nécessairement la possibilité de mettre 28 € le soir, quand bien même ça reste, je pense, raisonnable, peuvent tout aussi bien venir faire le déjeuner et être contents aussi, en fait. Et ça, ouais, c'était vraiment quelque chose qui... Je suis venue m'installer là à un moment où ça correspondait pas nécessairement à ce qu'était le quartier à ce moment-là. Ça change beaucoup et y a plein de lieux qui ouvrent et plein de super lieux qui ouvrent. Mais oui, j'ai estimé que ça faisait partie de l'ordre du respectueux, en fait. De dire, ben, en fait, voilà, il y a ce lieu qui est là, mais il est ouvert à tous les gens du quartier, en fait. Et je tiens à rester là-dessus. Quand j'ai ouvert, je me suis promis que, par exemple, jamais le menu du soir dépasserait 30 €.
Ça va, t'as encore une petite
jamais.
Marge.
J'ai encore une petite marge, absolument. Mais oui,
ah,
c'est...
Ça fait 6 ans, là, c'est pérenne. Ouais. Tu vois, c'est un projet pérenne qui dure. Voilà, c'est la preuve que ça marche aussi. Ça fonctionne.
Oui, que ça peut fonctionner. Qu'on n'est pas obligé d'être à la tête de grosses machines pour que ça fonctionne. D'ailleurs, je pense que la grosse machine est plus complexe.
Surtout en ces temps complexes aussi,
voilà.
Finalement.
Exactement. Et je m'en suis rendu compte. Parce que là, en étant contrainte de fermer 3 mois, je réussis quand même à me remettre sur mes pieds en peu de temps. Alors oui, avec du stress et tout, mais beaucoup moins que si j'avais un resto qui doit faire 100 couverts par jour. Enfin là, ça serait complètement dans un lieu touristique, etc. quoi. Mais ça aussi, c'est quelque chose qui a été réfléchi. Moi, j'ai vraiment réfléchi au pire. Quand j'ai monté le dossier pour ouvrir Dame Jeanne, j'ai vraiment réfléchi au pire, voilà, pas à ce qui pouvait se passer de super chouette, mais vraiment à ce qui pouvait se passer de très très compliqué, ouais, parce que c'est une réalité, enfin je veux dire, on peut pas rien n'est lisse et particulièrement dans le monde du commerce, particulièrement dans une industrie qui est très qui grossit aussi, en fait, qui accueille de plus en plus de monde avec des projets très différents, etc. Mais dans une ville qui, elle, ne grossit pas. Par ailleurs. Donc, c'est aussi, il faut aussi prendre ça en compte dans la dimension du lieu, quoi.
Bon, on arrive à la fin. Dernière question traditionnelle. Je vais te demander une recette à faire à la maison.
Ah, une recette à faire à la maison. En ce moment, je suis très udon à la maison. Voilà, mais parce que comme je suis une fana des bouillons,
ça va bien avec.
Du coup, ça tombe bien. Puis ce qui est chouette, c'est que tu fais tes udon, puis pendant que ta pâte elle pose, et ben tu prépares ton bouillon de l'autre côté.
Donc comment on fait les udon?
Comment on fait les udon? Et ben on prend 200 grammes pour deux personnes. On prend 200 grammes de farine de blé. On prend 80 grammes d'eau. Alors moi, j'aime bien, je fais avec de l'eau bien bien chaude. parce que ça active les gluten en fait plus rapidement. On met une bonne pincée de sel et ensuite on pétrit pendant une vingtaine de minutes à peu près. Si vous êtes un peu flemmard, et ben vous y allez au robot.
Mais 20 minutes, c'est assez long quand même.
Ouais, c'est long, mais ça, par exemple, 20 minutes de pétrin par jour pendant confinement, je vous assure que ça relaxe, ça relaxe beaucoup, beaucoup. Ensuite, on laisse reposer pendant une bonne heure. En faisant en sorte à ce que la pâte se dessèche pas. On laisse poser à température ambiante, mais il faut pas que la pâte se dessèche, sinon elle est moins facile à travailler après. Et puis ensuite, pendant cette petite heure de pause, on se fait un bon bouillon avec ce qu'on veut, ce qu'on a dans les placards. On peut y ajouter toutes les herbes qu'on veut. On peut mettre aussi un œuf mollet si on a la passion des œufs. On peut y mettre tout un tas de choses. Là, une que j'ai faite, justement, post mon dernier meilleur repas avec mon papa et ma maman, j'ai récupéré les carcasses de homard et j'ai fait des udon avec une bisque de homard et de l'origan frais du jardin. Voilà. Donc ensuite, une fois votre bouillon fait et cette heure de pause passée, on fait un aplat avec sa pâte, plus ou moins épaisse comme on veut. Faut qu'il y ait un peu de mâche.
Ouais, les udons, ils sont un peu épais quand même.
Épais, ouais.
Un demi centimètre, non.
C'est oui, 5 millimètres. Ah, ouais. Après, si on est à 3, c'est aussi ok. Et puis on fait une coupe au couteau. Et on farine et après c'est cuisson à l'eau bouillante 8 minutes.
Tu les cuis pas dans le bouillon, hein. Tu les cuis hors du bouillon et
on cuit hors bouillon et on les passe
sous l'eau froide.
Je les rince sous l'eau froide
pour arrêter la cuisson.
Arrêter la cuisson puis enlever l'excédent. Comme c'est fariné,
ah oui.
T'as un excédent sur la pâte, ce qui est pas super confort. La dégustation. Et voilà. Et ensuite, tu plonges dans le bouillon. Ça se fait aussi très bien. Ça se mange aussi. Ça peut aussi se manger froid en salade. Mais bon, ouais, non, dans le bouillon, il n'y a pas compète, quoi. Voilà pour la recette.
Merci, Julie.
Avec plaisir. Merci, Julie.
Vous venez d'écouter Julie Côte, épisode 7 de la saison 4. Pour goûter ce qu'elle a dans la poêle, rendez-vous quand les restaurants rouvriront chez Dame Jeanne au 39 rue Ramponneau dans le 20e arrondissement. Vous pouvez écouter les précédents épisodes sur votre appli podcast préféré ou sur le site apoil-lepodcast.com et n'oubliez pas de vous abonner au compte Apoil Podcast sur Instagram pour ne manquer aucune nouveauté. Cet épisode a été monté par Garance Munoz, musique par Santiago Walsh. À dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Apoil.